Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rosette Petnga, qui est coach professionnelle et qui est aussi qui a fondé plusieurs entreprises. Je l'ai invitée, c'est pour répondre à une question: quelle place donner à son identité culturelle pour développer son entreprise? Bienvenue Rosette et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Laurence, et merci de m'avoir invitée. J'ai trouvé ma place à partir du moment où j'ai arrêté de me poser la question de donner une place à mon identité culturelle. Je me suis bien sentie en tant que chef d'entreprise à partir du moment où je me suis contentée d'être.
Mmh. Wow.
J'ai arrêté de me poser des questions.
Ah, tu démarres fort là, du coup. Ah, c'est intéressant. Alors, si on refait le processus par lequel tu es passée, parce que j'imagine... Peut-être que si, tu vas me dire, tu t'es peut-être réveillée un matin en te disant ça. Si je t'ai invitée aussi, c'est parce que en tant que coach professionnel, tu as beaucoup étudié la question de la construction identitaire. Et moi, ça me parle bien parce qu'en tant que graphiste, c'est mon métier de traduire une identité en images. Et alors, comment ça se construit une identité, justement?
Alors, moi, j'ai à peu près la même question, enfin la même problématique que toi, mais pour une autre raison. Ça ne se voit peut-être pas parce que nous sommes à la radio, Laurence, mais je suis une Française issue de l'immigration. Donc, les questions identitaires, l'identité, c'est quelque chose qui me traverse depuis toujours, trouver sa place. Quand on est d'ici, d'ailleurs, et qu'on est dans une société où finalement on est un peu minoritaire, parfois, il faut du temps pour pouvoir trouver sa place, vivre son identité, en tant que vivre son qui je suis, vivre de qui je suis, pour parler, et vivre qui on est de façon apaisée. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir arriver à te répondre ce que je t'ai répondu tout à l'heure, trouver ma place et arrêter de me poser des questions. Et étant une Afropéenne, j'aime bien cette appellation d'ailleurs, hein, c'est à la fois européenne et africaine, je me suis rendu compte qu'il y a finalement différents stades. Tu as des gens comme moi qui vont peut-être se poser des questions, tu as d'autres. Enfin, il y a autant d'approches qu'il y a d'Afropéennes, j'ai envie de dire. Donc, tu as des gens qui vont peut-être pas se poser de questions et qui vont vivre leurs différences de façon... Tu as des personnes qui vont totalement basculer dans l'autre avec une espèce de rejet de toute l'autre part de leur identité. Et puis, y a des personnes qui vont, selon la manière, le positionnement qu'on va avoir, on va le vivre de façon pacifiée ou pas. Bon, voilà. Moi, j'ai eu une espèce de cheminement. Et la maternité, le fait de regarder les enfants, de regarder une génération qui est différente de la mienne, m'a permis finalement de trouver, d'avoir des réponses finalement à certains de mes questionnements et petit à petit d'assumer cette double identité ou cette multiple identité, parce qu'elle n'est pas que double finalement. Cette multiplicité d'identité et même de réaliser que c'était une force.
Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de mettre en avant ce qui te différencie dans le sens par rapport à une culture franco-française très caricaturée par exemple? Tu avais envie de communiquer sur tes autres cultures ou ton autre culture en tant qu'entrepreneur, par exemple? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question?
Ah, mais clairement. En fait, je ne me la suis pas directement posée. C'est-à-dire, il y a toujours... Bon, moi, j'ai 51 ans, donc j'ai atteint l'âge de la quête de sens et j'ai vraiment l'impression que mes réponses aujourd'hui... Je suis sûre que si tu m'avais prise 20 ans ou 30 ans plus tôt, je ne t'aurais pas apporté les mêmes réponses. Il y a eu un moment où j'ai eu une approche, puisque je suis d'ailleurs et que je suis venue pour repartir en arrière, je suis venue étudier en France. Donc, j'ai eu mon bac au Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise. J'arrive en France pour faire des études universitaires. Ma place, enfin, j'avais aucune ambition de rester. Hein. J'étudiais, je terminais mes études, je rentrais. Par la force des choses, je construis ma vie ici, je reste. Et peu à peu, je commence à me questionner, je fais mes enfants. Et il y a toujours une phase, enfin, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais en tout cas, moi, j'ai eu une phase un peu assimilationniste au départ. Tiens. Puisque je suis d'ailleurs et que je m'installe ici, j'ai accepté d'avoir la nationalité française. Ma manière à moi de démontrer que j'adhère au contrat républicain, c'est de faire finalement ce qu'on attend de moi, ce qu'on me demande de faire. Et donc, j'ai essayé, j'avais des enfants qui faisaient que du violoncelle. Vraiment, j'étais la caricature même de... Bon, j'ai jamais... Alors, c'est très étrange parce que plus jeune, j'ai jamais beaucoup écouté des musiques africaines, d'ailleurs. Hein. J'étais très, très jeune, j'avais tendance à venir en vacances en Occident parce que, voilà. Et donc, du coup, je n'ai fait qu'accentuer ce côté-là. Voilà. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, il y avait tout un pan de mon identité dont j'étais amputée. Et c'était très embêtant, c'est-à-dire que quand tu es d'ici et d'ailleurs, même si tu es loin de chez toi, surtout quand tu es arrivée après 18 ans comme moi, il y a tout ce patrimoine identitaire qui te suit, qui t'accompagne. T'as beau être occidentalisée, je ne sais pas, européanisée, il y a plein de choses en fait que tu fais qui te rappelle ta culture, tu es imprégnée en fait, et puis moi je suis très imprégnée de ma grand-mère qui m'avait dit un certain nombre de choses qui étaient des paroles fondatrices, et petit à petit je me suis rendu compte que voilà, il y avait une espèce de déséquilibre, et que finalement même en faisant tout ça, j'étais toujours vécue comme étant l'immigrée. C'est-à-dire que l'une des premières questions qu'on me posait, j'ai très vite été chef d'entreprise, c'était « oui mais… » là où tu viens, ton pays. Donc, en fait, on me renvoyait toujours à ma différence. Et quand j'ai été maman, en faisant grandir tes enfants ici et en te rendant compte que finalement, tu les élèves en les amputant un peu d'une part de toute la part africaine, en fait, de leur identité, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête. Et puis il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Quand tu vis en France et que tu es noire, moi je suis en Alsace, tu es confrontée au racisme. C'est-à-dire que quand des gens te ramènent souvent à ta différence, tu as plusieurs manières de le vivre. Tu peux le subir et tu peux décider d'en faire une force. Moi j'ai fait le choix d'en faire une force. Et ma différence, en tout cas, clairement, c'est ma force. D'abord, je suis chef d'entreprise, j'ai des entreprises dans un domaine d'activité où pendant longtemps, j'étais la seule. Je sais pas, 80 chefs d'entreprise dans les services à la personne et dans l'aide à domicile, parce que ma toute première structure était une structure d'aide à domicile spécialisée dans la petite enfance. J'étais la seule noire d'un parterre de blancs avec une seule personne. Pour moi, c'était une force. Tout le monde me reconnaissait. Tout le monde retenait le prénom de Rosette. Rosette, elle n'avait pas besoin de connaître les autres. Donc, ce qui aurait pu être un handicap au départ était une force. Et puis, pareil, dans mon activité, dans mon travail, au début, c'était un peu compliqué parce qu'on est en Alsace, les gens veulent faire garder ce qu'ils ont de plus précieux, leurs enfants, les gens rentrent dans l'intimité. Et moi, j'avais aussi une part d'activité d'aide ménagère. Donc, assez rapidement, j'étais confrontée aux questions de personnes qui me disaient des trucs du genre « Ah oui, mais non, mais moi, je veux quelqu'un… » Bon, vous avez l'air assez bien comme ça, mais on veut quelqu'un de type européen. Et ça heurtait ma possibilité. Et un jour, j'ai réfléchi à ça et je me suis demandé « Mais Rosette, est-ce que tu ne te travestis pas? Est-ce que tu ne te renies pas quand tu acceptes d'entendre ce genre de choses sans rien dire ?» Et du coup, j'ai mis en place des choses, des formules toutes faites que j'apprenais à mon personnel. Donc, quand j'avais quelqu'un qui me disait ce genre de choses, je lui disais « Ah, les critères raciaux n'entrent pas dans les sphères de compétences d'une aide à domicile. » Et du coup, petit à petit, on le faisait. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, Tu sais, les gens, alors, ils se croient malins. Ils vont te dire peut-être, ah, mais je veux quelqu'un de dialectophone. Ah, vous parlez dialecte. Non, pas du tout, mais on aimerait l'apprendre aux enfants. Donc, quand tu entends ça, tu te dis, là, je la vois venir. Moi, j'ai dans mes salariés, une qui parlait, je me rappelle, j'avais Nora, qui est très basanée, hein, maghrébine, et qui parlait parfaitement l'alsacien. Non, j'en vois Nora. Et puis là, il est embêté. Ah ouais, mais non. Puis jusqu'à ce que le mot finisse par sortir. Et à contrario, j'avais dans mon équipe Denise. On va inventer un prénom, mais les gens avec qui je travaillais la reconnaîtront. C'était vraiment la bonne alsacienne, tout ce que tu veux. Moulin à parole, pas efficace du tout, mais très alsacienne. Donc, chaque fois que j'avais vraiment la personne qui avait un peu ce type de critère, je lui envoyais peut-être, je fais genre, je n'ai pas compris, j'envoie Rosette, enfin, j'envoie une noire. Et puis, alors, je lui envoie sa personne de type européen, entre guillemets, mais celle-là, objectivement, ils veulent quand même de la qualité. Et puis, il finissait par tomber le masque. Et petit à petit, tu te rends compte que la réalité, c'est la peur de la différence. C'est-à-dire que derrière toutes ces excuses à la con que les gens te sortent, se cache finalement une peur de la différence. Et à partir du moment où j'ai assumé d'être qui je suis, où j'ai assumé de dire, ah oui, mais d'oser en fait trouver des stratégies comme ça pour pouvoir permettre aux autres de sourire à la différence, je me sentais mieux. Professionnellement. Et puis j'ai vécu des choses fantastiques. Je me rappelle j'avais une salariée d'origine béninoise ou togolaise, je ne sais pas, elle s'appelait Marguerite. Les petits de qui elle s'occupait n'avaient jamais retenu le prénom. Ils l'appelaient Pâquerette. Et du coup, c'est devenu, alors je pense qu'ils s'étaient dit c'est une fleur. Et c'est devenu le prénom, c'est-à-dire que nous, on l'appelait Pâquerette. Ah ben tiens, on veut Pâquerette et tout. Donc, on a fini par. Et je précise que Pâquerette a travaillé dans une famille qui m'avait dit, on veut quelqu'un de type européen et qui a fini par faire bouger ses lignes. Et je pense que toutes ces expériences-là ont contribué à construire mon identité de chef d'entreprise. Vraiment. C'est-à-dire, j'ai fini par me rendre compte que finalement, à partir du moment quand ce que tu dis est en adéquation avec ce que tu es, tout passe en fait. Finalement, les choses passent. Et puis moi-même, j'étais à l'aise. Je me suis sentie, pour utiliser un langage de coach, alignée à partir du moment où je me suis assumée telle que je suis, où je n'étais plus Rosette. Alors en plus, à l'époque, j'étais mariée, je m'appelais Madame King. Donc du coup, tout, tu sais, au téléphone, ils te parlent. Tu occidentalises à mort ta voix. Donc du coup, ils savent ça qu'ils ont à faire. Et quand tu arrives, premier choc, ils se disent, bah, ouais, elle est noire. Et tu le vois, en fait, tu sais, les premières secondes, tu vois les gens un peu se décomposer. Tu te dis, bon. Puis au bout d'un moment, ils se disent, oh, ils sont pas mauvais, elle ne m'a pas volé, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait. Et ça m'amusait. Et j'ai pensé pendant des années que je m'en amusais, alors qu'en réalité, non. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça m'abîmait, en fait. Et j'ai décidé, sans pouvoir me prendre pour. Sans vouloir venger la cause noire ou ce genre de choses, mais j'ai décidé de faire mon colibri, pour parler comme Pierre Rabhi, à ma place, à petite dose, poser des actions qui permettraient à chacune des personnes que je rencontrerai, en tout cas dans mon parcours professionnel, de se rendre compte que de voir au-delà de Rosette, voir la professionnelle, et puis même si on a envie de voir juste une professionnelle qui apporte, si on a envie de voir Rosette en tant que femme noire, mais que ce soit limite le plus produit. Donc j'ai un peu forcé ça, j'ai forcé cette identité-là. Aujourd'hui, je suis patronne d'un réseau de crèches. Dans mes crèches, je travaille en famille. Enfin, je travaille avec mon frère, ma cousine, mes nièces et tout ça. Et j'ai ma grande cousine. Vous savez, la notion de cousin, cousine n'existe pas en Afrique. Hein, c'est ma grande sœur. Donc, et on l'appelle tous Tata Flo. Mais tu sais que même les familles l'appellent Tata Flo. Bah, je l'appelle Tata Flo. Je me suis jamais travestie. J'ai continuer à l'appeler Tata Flo en présence des familles, jusqu'au jour où tu as toujours un parent qui te pose la question, mais pourquoi ? Ah, ben, ça, c'est ma grande sœur. Puis en plus, elle, quand tu es... Si vous voulez obtenir quelque chose d'elle, mettez-lui du Tata Flo, vous allez obtenir encore plus et tout. Et ça passe. Et finalement, ben voilà. Quand tu me demandes si la personne que je suis, c'est-à-dire que le fait, mon identité multiculturelle imprègne mon rôle de chef d'entreprise et mon management, oui, mais c'est quelque chose de très assumé, de très clair, que moi, j'ai fait le choix de transformer en force. Mes salariés, quand je suis en entretien d'embauche, je leur dis toujours, travailler dans les crèches d'Isis, c'est intégrer une famille. C'est-à-dire que si tu viens là et que tu ne veux pas commencer, si tu veux être un peu à part et que tu te dis, je fais mon boulot, je me casse, pardon, ne viens même pas, ne commence même pas à travailler avec moi. Par contre, si tu te dis, tiens, j'intègre une tribu, d'ailleurs, je les appelle la tribu d'Isis. Donc, je fais partie d'un clan et puis moi, je fais partie d'une famille au sens africain du terme. C'est-à-dire que quand ça, les joies et les douleurs se vivent collectivement, tu as ta place ici. Et j'avoue que j'ai le privilège quand même. Je suis mon propre patron depuis 2001. Avant 2001, j'avais travaillé en entreprise, donc très rapidement, je suis allée vers quelque chose. Et honnêtement, je vis de belles expériences professionnelles. Et je ne pense pas que je sois en capacité de travailler pour quelqu'un. Et je gagne très bien ma vie. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est capable de faire ce type de choix, de rester soi-même, d'être authentique. Je suis ce que je veux. J'ai envie de mettre un pagne pour aller travailler. Je mets un pagne. J'ai envie d'être habillée un peu à l'occidental. Je le mets. Donc, je suis vraiment qui je suis. Les gens, ils me parlent. Un jour, j'ai décidé de me couper les cheveux. J'ai coupé, j'avais un afro. Et les gens me posent la question. Ah, machin, je dis, ah, mais nous, on a un avantage. Si j'en ai marre, je mets des mèches et les cheveux poussent en 5 secondes. Et tu te rends compte que l'authenticité, c'est quelque chose de fondamental. Quand tu es authentique, les gens te suivent s'ils adhèrent à ce que tu leur proposes. Donc après, toutes les autres choses qui sont un peu cosmétiques. En tout cas, moi, je me suis débarrassée de ça. Depuis que j'ai choisi de faire ça, je vis très bien. Je vis ma vie professionnelle de façon très épanouie. Et moi, j'invite les gens, honnêtement, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, à avoir ce type de réflexion. C'est-à-dire à se questionner sur qui ils sont, voir ce qui... quelle est ma spécificité? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux faire qui fait que les gens se disent à compétence égale, on choisira Rosette? Et moi, clairement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, mon identité, c'est ma force. J'arrive quelque part déjà, moi, on me reconnaît. Je suis dans un pays où je suis minoritaire, il y a un parterre de blancs, là, on ne reconnaît pas, mais moi, on retient Rosette. Donc, du coup, rien que ça, c'est une force. Et tu vois, tout ça pour te dire que la même situation, selon la personne, peut être vécue comme une force, comme une faiblesse. Une autre personne va te dire, ouais, mais machin. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de racisme ou tout ça. Il y a, c'est réel, mais j'avais le choix entre me plaindre, me dire, oh là là, en tant que noire, t'occuper d'enfants, en plus, c'est hyper délicat, hyper sensible, tu ne vas pas pouvoir y arriver, et te dire, mais tiens, qu'est-ce que je peux proposer de plus? Et voilà. Et dans mes crèches, par exemple, on a expérimenté plein de choses. Le portage des bébés au dos. J'ai plein de choses, en fait, où tu as une maman qui arrive et qui te retrouve quelqu'un qui a porté un bébé au dos et qui fait une photo en se disant oh, « c'est fantastique » et qui demande qu'on lui apprenne. Finalement, mes crèches ne sont pas comme les autres, mais c'est même peut-être parce qu'elles ne sont pas comme les autres que les gens viennent me voir. Honnêtement, non. Moi, je n'ai jamais été dans l'extrême de dire non, je ne suis pas africaine. Non. Voilà. En revanche, tu as fait le choix de rester. Tu t'es naturalisée française. Et donc, tu te dis, si je joue le jeu de l'intégration, limite, parce que, tu sais, moi, ma fille a étudié au Canada. Les Canadiens n'ont pas la même conception de l'intégration que les Français. En France, l'intégration, il y a une espèce de conception assimilationniste. C'est-à-dire que c'est comme si on te prend, on te fait gommer, en fait.
C'est ça.
Qui tu étais avant, et puis tu dois fonctionner comme... Alors que le Canadien, on sait que tu as une histoire, tu es chargé de cette histoire, et tu peux... on te prend tel que tu es, et tu vas venir t'enrichir de ta nouvelle histoire. Mmh. Et ça, je trouve beau, tu vois, moi, quand je suis arrivée... là-bas, je descends de l'avion dès l'aéroport. Une femme porte un foulard et c'est elle qui nous. Et moi, en française, j'étais limite choquée. Mais c'est quoi ce truc? Laïcité, machin. Jusqu'à ce que je me dise, mais en quoi son foulard me gêne? Elle avait bien attaché ses cheveux, caché ses oreilles, mis son képi, et puis ça ne faisait pas d'elle un policier de seconde zone ou ce genre de choses. Et tu vois à Londres, des Sikhs avec leurs cheveux, tout le monde s'en fout. Mais nous, en France, t'as vraiment, je sais pas si c'est différent politique, mais c'est comme si, pour dire que tu adhères au contrat républicain, il faut que tu gommes un peu tout l'autre parti de toi. Donc, moi, j'ai commencé par, alors pas vraiment gommer, mais je me disais, je vais jouer le jeu pour qu'on me foute la paix. Ou je pense avoir joué le jeu, mais on ne m'a pas foutu la paix pour autant. Et j'étais pas, et même en faisant ça, je n'étais pas à l'aise. Moi, vis-à-vis de moi-même, j'avais l'impression de me nier. Et il s'est passé un truc, je me rappellerai toujours, des élections, je ne sais plus, il y avait une élection, et puis il y avait, je m'en souviendrai toujours, la femme de ménage qui travaillait chez moi, vient me voir en me disant « Ah, vous n'avez pas peur qu'on vous renvoie chez vous si Marine passe ?» Je ne parle pas de maintenant, hein, c'était la première fois qu'elle était censée, je ne sais même plus, c'était à l'époque de Sarkozy, ou bien c'est très vieux. Et moi, je n'avais pas compris. Je dis, mais... Et quand j'ai compris, je me suis dit « Maman, je suis française depuis je ne sais trop combien d'années, je suis son emploi. » Mais elle est en train de me vivre comme étant une étrangère. Et je pense que c'est là où j'ai eu un premier déclic en me disant, oui, mais attends, vous êtes... Alors, quoi que tu fasses, tu ne seras jamais, il y aura toujours cette histoire. Tu vois, dans ma mémoire, j'en parlais. Je crois que les Noirs sont les seuls, finalement, étrangers qui ont du mal à... Même s'ils ont envie de jouer le jeu de l'assimilation, c'est impossible parce que tu portes ça sur toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te voit, j'ai un Italien ou je ne sais pas, un Néo-Zélandais ou je sais pas, un autre Européen blanc n'est pas forcément français. Mais on ne lui demande pas on va pas poser sur lui le regard d'un étranger. Alors que moi, je n'ai même pas ouvert la bouche et je me demande toujours comment font nos frères antillais. Parce que eux, par définition, ils sont français. Et moi, à la rigueur, quand on me dit « rentre chez toi », je suis venue d'ailleurs, et je me dis « mais un Martiniquais, un Guadeloupéen, en tout cas les gens des Dantons, ça va être du violence inuit pour lui, pour eux. » Parce que, bah, ils sont français, ils n'ont même pas à justifier de ça. Nous, on a cette problématique-là. Et j'avoue que au début, j'avais peut-être pas le rejet, peut-être l'assimilation. Un jour, je me suis dit, mais ma fille, et tout ça, c'est aussi l'âge, hein, l'âge, l'expérience, le vécu, et la maternité. Mmh. Au bout d'un moment, quand les enfants sont confrontés au racisme, quand je te demande, mais qu'est-ce que j'aimerais leur transmettre? Est-ce que... j'avais très peur pour eux. Je me disais, ah, purée, moi, mais eux, ils ne seront pas armés ou... Et comme la vie est fantastique, moi, ma fille, elle m'a... j'ai eu une anecdote avec ma fille que je peux raconter. À chaque fois, je me disais, mais moi, si on me dit « rentre chez toi », j'ai un ailleurs, ça fait sens. Je suis venue ici à 18 ans, mais j'ai toute une histoire que j'avais construite. Je me disais, mais mes enfants, ils sont nés ici. Mes enfants étaient petits. À un moment, il y avait quelqu'un qui avait demandé à ma fille, mais... Tu viens d'où? Elle dit de Oppenheim. Oui, mais d'où exactement? Mais de Oppenheim, je te dis, t'es sourd. Et ça me faisait rire parce que j'avais très bien compris que Elle n'avait pas compris la question, le tu viens d'où, c'était d'où viennent tes parents. Mais parce qu'elle était noire, une fois de plus, automatiquement, ses parents venaient d'ailleurs. Et ce n'était pas du tout des gens racistes, mais eux-mêmes, ils avaient compris la violence que pouvait, la violence sourde de leurs questions. Et je m'étais dit, ah tiens, peut-être que les enfants, donc je m'étais fait tout un foin. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que non, ils ont leur levier. Ils n'ont pas notre histoire. Et peut-être même que c'est eux qui ont raison. Tu vois, ils n'auront pas besoin... tu sais, dans mon mémoire, je raconte cette histoire. Je me souviens un jour, je vais chercher ma fille au collège. Elle a dos, elle a les hormones, elle pue. Et donc, c'est l'après-midi, je vais la récupérer à la sortie du collège. Elle monte dans la voiture, l'habitacle se remplit d'une odeur nauséabonde. Et je dis, Germaine, Kisa, tu ne sais pas encore. Je dis, mais tu sais, tu vas mettre le déodorant et tout ça. Elle me dit, ah, mais maman, ça va encore. Hein. Si tu sais, Léa, c'est encore pire que moi. Et Léa, c'est sa meilleure amie de l'époque qui était aussi ado. Elle me dit, mais elle pue encore plus que moi. Et moi, je lui dis, bah, je m'en fous de Léa, tu sais. Léa, elle est blanche. Tu te souviens en maternelle, en primaire, là, la copine qui t'avait appelée l'Africaine qui pue. T'as pas le droit, des gens comme nous n'ont pas le droit. Je me suis lancée, je te jure, dans une litanie de trucs. Ma fille, elle m'a regardée. Et j'avais l'impression qu'il y avait un fossé de perception entre nous deux. Donc, j'ai bavardé, enfin, moi non plus, je peux faire. Longtemps, non, t'as pas le droit, je veux pas, il faut que tu prennes la douche, et puis il faut que tu penses à mettre le déodorant, et il faut même que tu te parfumes et tout. Quand j'ai fini toute ma litanie, mais très calmement, elle me répond, je revendique le droit de puer. j'ai eu le tournis. Et je me dis, comment ça? Je dis, bah, moi, je revendique le droit de puer. Et sur le coup, je lui ai sorti une réponse de maman, parce que les mamans, parfois, mais cette phrase-là a été fondatrice chez moi. Je me suis dit, mais elle a bigrement raison. Pourquoi est-ce qu'elle devrait justifier voilà, si elle assume. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que je la chargeais de ma propre histoire, de ma propre perception de la chose, de mon vécu d'Afropéen, de mon expérience d'immigré première génération. Parce que voilà, je suis la première génération. Je suis arrivée en France en tant que Camerounaise. Ensuite, je me suis naturalisée. Et maintenant, Kézanne, elle est née française. Viens pas l'embêter avec ton histoire. Elle n'a pas tes problématiques. Et puis, si elle est au clair avec ça, ça va. Et quand je la vois, honnêtement, on n'est pas du tout... Notre histoire française n'est absolument pas la même. Ça, c'est aussi... je vais relativiser, elle vient d'un milieu privilégié. Je ne suis pas certaine que l'enfant qui a une histoire, je ne sais pas, qui a grandi en cité, qui est confronté au racisme de façon quotidienne, à la discrimination ou machin, aura le même type de réponse. Mais une chose est certaine, si tu regardes même les médias, si tu regardes Rokhaya, si tu regardes toutes... elle s'assume. Je veux dire, quand les gens commencent, Zemmour commence à parler, c'est pour elle trace sa route. Si elle te pose un problème, c'est toi, elle n'a aucun problème, elle se sent française, elle se vit française, elle n'a pas à justifier de son appartenance à la République. Et si elle te gêne, saute du cal en l'air, comme disent au Cameroun. Et je trouve ça fantastique. Je me dis, mais en fait, eux, ils ont raison. Ils vont trouver leur réponse, leur clé et leur identité. Et vraiment... c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connus. Moi, j'ai fait une espèce de road trip africain comme ça parce que j'avais besoin d'avoir une espèce de retour vers l'Afrique. Et moi, ça m'a fait du bien. Ça a fait du bien à mon fils, je pense, parce que ça lui a permis de valoriser toute la partie africaine ou noire de son identité. Mais je pense que même sans ça, il aurait trouvé ses ressources. Je suis définitivement convaincue, après ces 6 mois-là, déjà j'en étais convaincue avant, mais aujourd'hui encore plus qu'avant, que bah, être afropéen, c'est une force. C'est quelque chose qui te permet, enfin, en tout cas afropéen ou alors multiculturel. Avoir une multi-identité, c'est forcément une force, parce que c'est une ouverture sur le monde. C'est, C'est plein de choses. Moi, j'avais un coaché, un jeune, qui me racontait que voilà, il est parti en voyage en Asie avec des copains et arrivé là-bas, il fallait manger pimenté. Lui, il a sa mamie qui fait toujours des trucs. Elle t'a dit non, c'est bon, mais c'est parce que c'est un petit métier, c'est qu'il y a toujours un peu de piment. Ses papilles sont habituées à ça. Et tous ses autres copains de type caucasien ne connaissaient pas, mais ils ont galéré hein, en Asie. Dit que mec, moi, pour moi, mais même sur des choses aussi subtiles, des détails de la vie aussi simples, c'est forcément une force à plus forte raison dans une posture professionnelle. Une identité multiculturelle, quand elle est assumée, peut être fantastique. Et en tout cas, moi, dans mon cas de figure, dans mon expérience de patron et même dans mon expérience, mon parcours professionnel et mon parcours de vie, c'est clairement une force. Et je ne peux qu'inciter des personnes qui ont une double identité ou une identité multiple. Alors, je ne sais pas si c'est une double identité ou plutôt des influences identitaires multiples, de bien les vivre, de bien les incarner, de mettre dans un shaker, de faire un mix un peu fantastique et ça fera forcément quelque chose d'unique, même si on dit que chaque être humain est unique, mais si on est unique et exceptionnel, c'est encore mieux.
Waouh, et bah tu sais quoi, je trouve que ça fait une parfaite conclusion en fait. J'ai même pas de questions tellement ton partage d'expérience a été super complet et à la fois très vivant et très précis, puisque t'as beaucoup d'expérience entrepreneuriale. Et bah écoute, je te remercie pour ce partage
Je t'en prie, merci à
très,
toi.
très riche.
Longue vie à ton podcast, je vais l'écouter. Et puis bravo, bravo d'oser. Je me suis toujours dit, tiens, ça peut être intéressant de le faire. Et là, on vient de vivre un très joli moment et gratitude absolue pour ça. Merci
Eh
beaucoup.
ben, merci, tu y as contribué. Allez, à bientôt.
À tout bientôt, au revoir.
Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.